Précisément midi, bonjour, bienvenue dans Trudeau Landry au FM 93. On passe encore les deux prochaines heures ensemble à 13h. On va aller faire un tour au point de presse du gouvernement du Québec concernant la vaccination. On va voir un peu aussi s'il y a des annonces concernant les zones jaunes qui passeraient à des zones vertes. Mais ce que je comprends, c'est que malgré le très, très faible nombre de cas à Québec, plus faible en proportion, beaucoup plus faible même en proportion que, par exemple, Gaspésie et de la Madeleine, on comprend qu'il va falloir être patient pour Québec. Quoique, regarde, on passe au vert techniquement dans quoi moins de deux semaines maintenant.
12 jours.
Dans 12 jours. Donc, on verra tantôt. On va aller faire un tour à compter de 13 heures. On perdra pas de temps. On va tout de suite aller retrouver notre collègue Alexis Samson qui est dans le secteur Limoilou. Il y a un meurtre qui a été commis au cours de la nuit. Il s'agirait d'un féminicide, donc une femme d'une cinquantaine d'années qui est décédée, probablement assassinée par celui qui était son conjoint. Alexis, est-ce que tu es là, Alexis?
Oui, salut Jérôme, salut Jonathan.
Salut Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce moment-ci? Peut-être commencer par relater les faits, là, comment tout ça s'est déroulé cette nuit-là.
Oui, ben ça a commencé vers 2h du matin, alors que les policiers de Québec ont reçu un appel pour une chicane de couple, donc des voisins qui trouvaient un peu inquiétant la chicane qui semblait y avoir dans un des appartements du bloc ici, parce que c'est une rue où il y a énormément de blocs à logement. Là. Moi, je suis sur l'intersection de l'avenue Duval et de la rue Sapinière d'Orion-Ouest. Là, c'est dans le secteur Limoilou, puis c'est beaucoup, beaucoup de blocs appartements. Puis bref, vers 2h ce matin, là, il y a un appel comme quoi il y avait une chicane de couple qui est en cours. Les policiers qui sont arrivés. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert un corps d'une femme d'une cinquantaine d'années qui portait des marques de violence. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire enquête là, pour essayer de localiser qui pourrait être l'auteur de tout ça. Et vers 4 heures ce matin, il y a un homme qui s'est présenté à la centrale de police Victoria. Là-dessus, je veux faire entendre David Poitras, qui est le porte-parole du service de police de la Ville de Québec, à qui j'ai parlé dans les toutes dernières minutes, justement.
Et avec les informations que nous avions, nous avons procédé à l'arrestation de ce dernier pour meurtre.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que le SPVQ peut nous dire sur le lien entre l'homme et la femme impliqués dans cette affaire-là?
Ça reste des informations qui restent à être clarifiées au niveau de l'enquête, au niveau de la relation entre l'homme et la femme. Ce qu'on peut dire, c'est que l'homme et la femme se connaissaient dans ce dossier-ci.
OK. Actuellement, il y a toujours un poste de commandement derrière nous, plusieurs voitures de police qui sont sur place ici. Qu'est-ce que le SPVQ est en train de faire comme opération à l'intérieur du bloc appartement actuellement?
Donc, présentement, vous avez les techniciens de l'unité d'identification judiciaire qui sont sur place, qui sont en train de recueillir l'ensemble des éléments de preuve nécessaires pour constituer le dossier de meurtre. Vous avez également les enquêteurs au dossier qui sont sur place là, pour les assister.
Est-ce qu'il y avait des témoins de la scène? Est-ce qu'il y a des témoins que vous avez dû rencontrer?
Ça fait partie de nos techniques d'enquête que de rencontrer des gens autour. Évidemment, dans le dossier-ci, on ne pourra pas confirmer si il y a des témoins directs ou indirects qui ont été impliqués dans ce dossier.
Ça fait qu'on ne sait pas s'il y a une chicane ou qu'est-ce qui s'est passé exactement. On n'a toujours pas ces détails-là, rupture ou quoi que ce soit de genre. Là.
Non, ça, on n'a pas ça. Mais tu sais, je peux te dire, j'asais avec des voisins. Bon, mais c'est un peu les voisins qui disent on savait pas trop, on connaissait pas très le même. On est surpris que ça arrive ici. Mais j'ai discuté aussi avec quelqu'un qui me disait... Là, je m'inquiète un peu là parce que j'ai une amie qui m'écrit là depuis ce matin. Elle pense que c'est peut-être quelqu'un qu'elle connaît, puis ce serait une triste affaire. Puis les gens qui s'inquiètent là, officiellement, on peut pas nommer personne impliquée dans cette histoire, autant la victime que la personne qui a été arrêtée, parce qu'il n'y a pas encore eu comparution pour l'instant. Ça devrait probablement se faire au cours de l'après-midi sous les chefs d'accusation de meurtre. Puis d'ailleurs, oui, ce serait... Bon, tout porte à croire que ce serait le 13e féminicide à survenir au Québec, mais surtout, c'est le premier meurtre également à survenir à Québec cette année, Jérôme.
Cette année, c'est ça. OK. Fait que là, pour les comparutions, j'imagine que ça va se faire soit cet après-midi ou demain, là, j'imagine.
Oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit peut-être cet après-midi si on est en mesure de tout terminer, mais le dossier va aller dans les mains du DPCP, sinon plus tard, demain matin. Mais on semblait me dire que ça devrait se faire plutôt au courant de la journée. L'homme de 35 ans qui a été arrêté, la femme qui est décédée, c'est une femme dans la cinquantaine. C'est pas mal ce que je peux vous dire là pour l'instant. Là.
Bon, écoute, Alexis, je veux que tu restes un petit peu avec nous autres pour jaser d'un autre dossier. Puis on en a parlé hier avec la sortie du maire Labombe concernant la fermeture d'une partie du pont là cet été pour faire des travaux. Puis là, écoute, là, il y a beaucoup de détails là-dessus. Tantôt, Joe, tu nous apprenais que Il n'y aura pas de collecte des ordures ménagères cet été, pendant une partie de l'été à Lévis à cause de ça. Là.
Oui, ça a été confirmé. Dense, bon, ça avait été évoqué la semaine passée au conseil municipal à Lévis parce que ce serait trop compliqué d'organiser le transport des camions de vidange finalement jusque dans les centres, les incinérateurs et tout ça. En plus du personnel que c'est difficile d'aller travailler, de circuler. Donc, ça a été confirmé. Je sais que certains vont peut-être dire, ben voyons, c'est pas la fin du monde, mais sérieux, l'été, là, les vidanges aux deux semaines, vraiment, c'est dégueulasse. Ça pue.
Ça n'a pas de bon sens.
C'est donc une autre incidence de ça.
Et je lisais aussi ce matin, Alexis, puis il y a eu d'autres reportages, mais j'en lisais un, entre autres, ce matin, de Radio-Canada, où on expliquait que, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises. On donnait l'exemple d'une shop de pneus ici à Québec qui vont, tu sais, un peu switcher les employés. Ceux qui travaillent, ceux qui vivent sur la Rive-Sud, mais qui travaillent à Québec, vont travailler sur la Rive-Sud. Des entreprises qui vont louer des chambres d'hôtel ici, à Québec aussi, pour que des gens qui travaillent sur la Rive-Nord couchent sur la Rive-Nord pour pas avoir à retourner chez eux et être pognés dans le trafic. On a des collègues ici qui commencent à planifier ça. Joe, t'as pas accepté mon offre encore, quoi, que tu vas être en vacances? Je te rappelle que la chambre de ma belle-mère en bas chez nous est pas utilisée depuis la COVID. T'as le droit en plus. Mais faire sa part, Alexis, je pense que t'as échangé un peu avec des gens du MTQ là-dessus. Là.
Ouais, parce que, tu sais, hier, quand je suis allé te voir à peu près à la même heure, on jasait des travaux, puis j'ai bien essayé de discuter avec le maire Labombe pour voir, lui, qu'est-ce qu'il y avait eu comme discussion avec le ministère des Transports, à savoir, est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? Parce que moi, c'est la question que je me pose depuis un certain temps, là. Est-ce que vraiment c'était la seule façon de faire de la part du ministère des Transports, c'est-à-dire qu'il fallait y aller de deux blitz de 10 jours avec des travaux 24 heures, où vraiment dans le jour, on n'était pas capable d'ouvrir plus qu'une voie dans chaque direction. Là, j'ai jasé effectivement avec des gens au ministère des Transports hier, où on me dit, bon, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, la raison pour laquelle on n'a pas le choix d'y aller avec des travaux en continu et pas seulement une fermeture de nuit, c'est parce que la membrane, qui est la cause du problème, là, c'est celle qu'il faut enlever, qu'il faut remplacer parce que la membrane, en bon français, était trop cheap la première fois, puis elle a fini par céder. Bon, là, faut tout enlever l'asphalte, faut enlever la membrane, faut redérouler une membrane et ensuite faut recouler de l'asphalte par-dessus. Ce qu'on me dit, c'est que si on était allé simplement avec des travaux de nuit, on n'aurait pas été capable de dérouler et ensuite de figer de l'asphalte par-dessus. Parce qu'on n'aurait pas eu assez de temps.
Okay.
Fait que là, on aurait tout le temps couru après notre temps, c'est-à-dire on aurait essayé de dérouler un bout, on n'aurait même pas été capable de le faire d'une manière, tu sais, de la bonne façon et recouler par la suite. On aurait manqué de temps dans les travaux de nuit, puis ça aurait pas été productif du tout, ça aurait servi à rien. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on me dit que on ferme pour une période continue. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on garde simplement une voie dans chaque direction? Ça, c'est la raison. Bon, c'est parce qu'on place une partie de la membrane d'un côté. Là, ce que je comprends, c'est qu'ensuite, on va faire le reste de la voie. Il va rester une voie dans chaque direction. Il va y avoir une troisième voie qui va être là, mais c'est une voie d'urgence. Cette voie-là, là, il y a personne qui va pouvoir circuler dessus. C'est une voie qui va être là en cas de panne, par exemple, où on pourrait déplacer un véhicule. Peut-être que si jamais il y a urgence, on pourrait faire passer, exemple, un remorqueur sur cette voie-là. Ouais. Mais c'est pas une voie pour circuler, ça va être beaucoup trop étroit. Puis c'est pas là non plus que vont circuler les véhicules d'urgence, exemple policiers, ambulanciers. Eux, on va les rediriger vers le pont de Québec. Au pire, on les va les escorter. Mais c'est de ce côté-là qu'on va les transférer. Puis l'autre chose, c'est que je me disais, pourquoi est-ce qu'on garde pas trois voies, par exemple, où on s'assure de pouvoir circuler, disons deux voies dans deux voies en direction nord le matin, deux voies en direction sud au cours de l'après-midi au retour à la maison. On me dit également que le goulot d'étranglement, de toute façon, il serait tellement important à l'entrée des ponts que rendu avec une voie de plus sur le pont, ça aurait pas tant que ça changé grand-chose.
Ouf! Puis là, on nous dit, ben finalement, éviter les déplacements non essentiels vers Québec. C'est un peu la phrase finale qu'on nous dit, là. Hein?
Ben, on n'aura pas le choix. Puis en plus, l'autre truc qui est intéressant de souligner, c'est que là, il y a une vaste opération de tourisme à Québec et tout ça, mais on s'est arrangé avec le ministère des Transports du côté de la Mauricie pour que les ponts, du côté du pont La Violette, il y a le moins de travaux possible pendant cette période-là. Il n'y aura pas de travaux à la surface sur le pont La Violette pendant les deux périodes de 10 jours, donc du 27 juin au 7 juillet et du 8 au 18 août. Pourquoi? Parce que gens qui arrivent de Montréal, du centre du Québec, de l'Estrie, même les gens, dépendamment, ils sont où? En Chaudière-Appalaches, ben peut-être que ça peut devenir plus intéressant de traverser sur le pont La Violette.
Mettons
quelqu'un, on se donne ça comme option.
C'est ça. Mettons quelqu'un de Repentigny qui s'en va en Gaspésie. Traverse au pont La Violette, tu pognes la 40, sauf qu'à un moment, il va se retrouver pogné dans le 120 aussi. Là, je veux dire, qu'on en soit rendu là aussi à parler du pont La Violette à 1h30 de char de Québec, c'est assez spécial.
Alexis, tu nous as parlé donc des commentaires, des réponses du ministère des Transports. Moi, juste dire que je trouve ça assez dommage que ça semble impossible d'avoir des réponses ou entrevues avec les gens du CIUS Chaudière-Appalaches. Du CIS Chaudière-Appalaches, pardon. Parce qu'il y a des gens du milieu de la santé qui nous ont écrit. On en a parlé en ondes, ce qui fait qu'il y a d'autres gens aussi qui nous ont écrit sur les inquiétudes au niveau... Parce que là, on parle des désagréments pour les gens qui vont aller travailler, pour le transport des marchandises, toutes des choses très, très, très importantes. Mais il y a comme une petite coche de plus quand tu parles de la santé, du transfert de patients, des transferts qui doivent être faits dans des délais X, Y, Z, de l'incapacité à ramener les employés de l'autre bord de la rive, parce que même si tu as un cordon de sécurité d'urgence, tu dois le prendre juste en situation d'urgence. Donc, les ambulanciers, les infirmières, infirmiers qui accompagnent les patients peuvent pas s'en revenir avec ces véhicules-là. Donc, faut que tu fasses rentrer d'autres mondes. Mais ces gens-là vont être capables de se rendre au travail. Il y a plein d'enjeux reliés à la
santé.
C'est
majeur, ça.
Et quand on a fait une demande d'entrevue avec le 6 Chaudière-Appalaches, on nous a répondu qu'on n'était pas prêt à répondre de ça. Mais s'il y a des craintes, moi, je veux savoir quelles sont-elles, qu'on en parle publiquement, voir s'il y a moyen de faire des pressions pour changer des choses, et s'il y a des solutions qui sont mises de l'avant, qu'on nous le dise aussi pour rassurer les gens.
Là, ça, c'est loin d'être un détail. Puis je sais que c'est pas le fun, mettons, pour des harnais, là, d'être obligé de gérer ça, les employés, les chambres d'hôtel, etc., là, tu sais, des shops de pneus. Sauf que dans le système de santé, il y a déjà un enjeu de main-d'œuvre. Il y a déjà un enjeu de on manque de personnel, des gens qui ont quitté, manque de disponibilité. C'est loin d'être un détail, ce boulot là, sérieusement. Hey Alexis, ça complète pour l'instant?
Oui, ça complète. Okay. Puis vous dire que misez pas trop sur le traversier. Hein. Je vous rappelle, on a juste un traversier cet été. Hein.
En plus, ça va bien. Hey, merci Alexis.
Merci les gars.
Parlant du traversier, Jérôme, une autre information qui m'avait été acheminée la semaine dernière, je me souviens plus si je l'ai mentionné, mais moi on m'a dit que dans certaines discussions, je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais il aurait été évoqué la possibilité d'interdire le traversier aux voitures. Pendant cette période-là, parce que comme il y aura juste un traversier en plus, il y a des gens qui craignent que ça devienne le bordel des deux côtés, des deux quais, du côté de la Rive-Nord ou du côté de Rive-Sud, que ça devienne une espèce de gigantesque stationnement, parce que les gens feraient la file pour essayer de prendre le traversier qui va passer aux 40 minutes ou aux heures. Donc, une des solutions serait peut-être de dire, ben, il n'y en aura juste pas de voitures sur les traversiers.
Réalisez-vous qu'actuellement, avec ce que tu viens de dire là, Joe, là, réalisez-vous qu'actuellement, à Québec, une agglomération de quoi 800 000 personnes, qui va probablement atteindre le million d'ici quelques années. Réalisez-vous que le troisième lien, c'est un bateau. Un fucking bateau actuellement à Québec. Réalisez-vous ça, là? Que dans notre agglomération, c'est ça le moyen quand les ponts sont jamés ou qu'il y a des travaux, puis on est basé sur un bateau. Une grosse ville comme Québec. Sérieusement, ça n'a aucun sens. Et ça m'amène à vous parler de Catherine Dorion. Des fois, je me dis, Catherine Dorion, on devrait peut-être pas y donner autant d'importance qu'on y en donne, là, si elle nous énerve, qu'on pense que ses points sont complètement dans le champ gauche. Sauf que ce que Catherine Dorion publie sur son Facebook, là, c'est parce qu'elle n'est pas seule à penser ça. Et il y a une réalité. Tu sais, quand je vous dis que si les gens de Québec veulent un troisième lien, là, les gens de la grande région de Québec, si les gens de Québec en veulent un pour vrai, là, ils vont devoir le dire et le manifester. Puis je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de volonté politique. Mais ça va prendre. Il y a des gens qui pensent, qui me disent que ça va prendre une certaine mobilisation. Pourquoi? Parce que les anti-troisième lien, ils sont à la guerre. Ils sont à la guerre. Ils ont toujours été à la guerre là-dessus. Mais là, ils le sont davantage depuis que les détails du projet sont plus...
Ils font le procès.
Ils font le procès, exactement ça. Sont plus clairs un peu. Et ces gens-là, ils ont une grosse qualité, si on se place de leur point de vue. Leur qualité, c'est quoi? C'est d'être organisés. Ils passent beaucoup de temps à militer contre ce genre de projet-là. Il y a des gens pour qui c'est leur job. Tu sais, souvent, les gens qui sont pour un troisième lien à Québec, Joe, là, c'est des gens qui travaillent, qui ont une vie, qui se déplacent, qui n'ont pas de temps à perdre, justement, dans le trafic, puis qui n'ont pas de temps à perdre à commencer à se mobiliser, puis à faire des pauses, puis à faire du lobby auprès des gouvernements. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas mon invention, ça va prendre un certain niveau de mobilisation que ceux qui en veulent un troisième lien à Québec le disent haut et fort. Comment? Je peux pas vous dire que j'ai trouvé la solution. Il y a une élection aussi qui s'en vient dans un an et demi. Ça va peut-être passer par ça. Je ne sais pas, OK? Mais Catherine Dorion, dans le fond, ce matin, ce qu'elle dit sur son Facebook, on en a parlé un peu hier, Joe, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est qu'elle, en gros, son point, c'est de dire que ce qui va se passer cet été à Québec et à Lévis avec les travaux sur le pont, faut pas en faire un argument pro-troisième lien. Elle dénonce ceux qui disent, regardez ce qui va se passer et après ça, regardez ce qui va s'être passé. Voici un argument pro-troisième lien. Moi, je pense qu'elle est complètement dans le champ parce que je suis même prêt à faire à donner des options, là. Parce que tu sais que ça a été sur la table à un moment donné. Il y en a qui disent que ça a pas de rapport de faire un troisième lien à l'est là-bas, qui devrait, à la limite, si on veut un troisième lien, être à l'ouest, à côté des deux autres ponts, parce qu'il y a une densité de population, les besoins sont là. Tu sais, il y a eu certaines analyses qui disaient ça aussi. À la limite, là, mettons que t'aimes pas le projet à l'est, ouais. Que tu dis il y a pas assez de voitures qui vont passer là, ça va trop. OK, si tu dis ça, ben à quelque part, il faut que tu sois quand même, je pense, en faveur d'un troisième lien à l'ouest. Moi, je pense pas que c'est à l'ouest. Là. Comprends-tu ce que je veux dire?
Ah oui.
C'est que là...
Sur le principe d'avoir un lien supplémentaire.
L'option de dire qu'on n'a pas besoin d'un troisième lien, là, sérieux, là. Sérieusement, de penser que Québec, avec 1 million d'habitants, on va vivre ad vitam aeternam avec un entonnoir, là, avec un lien et demi, là. Donc, si à la limite, tu trouves que ça n'a pas de bon sens de faire ça là-bas à l'est, t'es-tu pour un autre lien, peut-être un nouveau pont à l'ouest à ce moment-là, là? Je vous dis pas que c'est mon option encore là, je vais être clair là-dessus.
Oui.
Mais on peut plus ne plus avoir de discussion sur un nouveau pont ou un nouveau tunnel. Peu importe où tu le mets, on pourra pas vivre avec cet entonnoir-là jusqu'à l'infini, avec une région qui va friser le million bientôt. Ça a plus de sens.
Ce qui me met particulièrement hors de moi là, dans le long message que Catherine Dorion a publié sur Facebook, à un moment donné, elle dit, bon, si là deux petites séquences de 10 jours, là, ça vous fait fâcher, c'est peut-être parce que vous êtes trop dépendant de l'automobile. Bon, essentiellement, c'est ça qu'elle dit. Et ensuite, elle dit, je leur rappelle à ces gens-là que les pouvoirs publics mettront à leur disposition beaucoup d'incitatifs pour qu'ils aient pour le transport en commun durant les travaux. Prendre une journée off, si possible, et prendre une marche sur le bord de la Chaudière pourrait aussi offrir un certain soulagement. Je m'excuse, mais c'est parce qu'encore faut-il que le transport en commun soit capable de se rendre d'une rive à l'autre. À l'eau, ça va être le fun. Prendre l'autobus de Lévis à Québec, ça sera pas évident non plus. Là, ça va être tout va être complexe. Et quelle espèce de déconnexion patente et pathétique que de dire... Ils ont juste à prendre une journée off.
Ben oui.
Je m'excuse, là, et tu connais mon respect pour le travail des politiciens. Donc, ce que je veux dire là, c'est pas de diminuer le travail des politiciens, mais c'est pas tout le monde qui est député et qui peut dire je vais prendre la journée chez nous off aujourd'hui.
Exactement.
Ou pendant quelques jours, pour aller prendre une petite marche sur le bord de la Chaudière ou de la rivière Saint-Charles ici à Québec. Là. Des gens qui travaillent. Je donnais l'exemple du système de santé. Catherine Dorion n'est pas sensible au fait qu'il y a des gens qui se questionnent dans le milieu de la santé comment ils vont assurer la continuité des services parce qu'il y a des travailleurs qui ne seront pas capables de se rendre au travail ou que ça va être trop long. Ou que les transports vont être compliqués, peuvent même représenter un enjeu de sécurité publique, de santé publique. Elle n'est pas sensible à ça.
Exact.
Elle n'est pas capable de réaliser que si nous arrive quelque chose comme mieux avec le pont de l'île aux Tourtes, que la situation là, de 2 fois 10 jours en 1 mois, celle devenait quasi permanente ou qu'elle perdurait pendant des mois de temps, à quel point au niveau économique ce serait épouvantable. Le transport de biens, de marchandises,
elle
comprend pas l'importance de ça, Catherine Dorion.
Ça, c'est l'autre point, parce que t'amènes le point des employés de la santé qui, regarde, t'es on target à 1000% du jour avec ça. Mais l'autre point, c'est qu'on dirait qu'on a perdu toute notion de c'est quoi de l'activité économique. Parce qu'on a tellement emprunté d'argent, on a tellement pitché de l'argent dans l'économie de façon artificielle en imprimant de l'argent, que là, on a comme plus le réflexe et le... On fait plus lien entre quelqu'un qui va travailler... génère de l'argent des taxes, des impôts pour payer services. Tellement on a inondé l'économie canadienne d'argent qui a été imprimé, de l'argent qui a été emprunté. Alors que dans la réalité, le gars ou la fille qui, mettons, travaille sa construction, qui vit sa rive nord, qui va aller sa rive sud, s'il dit « je vais aller prendre une marche », ben c'est parce que ça marche pas de même. S'il dit « je vais aller prendre une marche sur la Chaudière », parce que, écoute, il y a trop de trafic aujourd'hui, je rentrerai pas au chantier, j'irai pas faire mon contrat de peinture, tu sais... Quelle mentalité déconnectée. Mais fait exprès. Écoute, c'est du populisme de gauche. À quelque part, c'est de bonne guerre, mais c'est à nous autres
de
ramener
guerre.
Le...
C'est qu'à un moment donné, là, c'est plus juste une joute politique. C'est plus... C'est le je m'en foutisme envers la réalité de la vie de gens qui sont des gens... qui devraient être égaux. Là. C'est, ouais. C'est des citoyens de la Rive-Sud, ce ne sont pas des citoyens de second ordre.
Exactement ça. Tu as tout à fait raison, Joe. Midi 20, Alex me fait des grands signes parce que, écoute, faut gérer un peu plus le timing. On a un point de presse tantôt à 13h. Juste le temps de vous donner le nom de notre gagnant pour un foursome, un droit de jeu à 4 personnes, donc, au club de golf Lobinière à Saint-Gilles. Très, très beau club de golf. Notre gagnant, c'est Nicolas Guertin. Donc, Nicolas Guertin qui remporte le foursome. Et la bonne réponse, les auditeurs qui suivent un peu le golf l'ont eu très facilement. Torrey Pines, qui est un super terrain. Les pros vont jouer là en fin de semaine. Mais si jamais vous voulez aller faire un tour là-bas, des fois, ça donne. Là. Des fois, des gens qui font des voyages de golf, c'est un terrain public. T'sais, c'est pas tous les terrains de PGA qui sont comme
et
ça.
Mais contrairement à ce qu'Alex Tétro pensait, Torrey Pine n'est pas le nom d'un golfeur. Là.
Non,
il
Alex.
Pensait que c'était Torrey Pine.
Mais non, c'est le nom d'un terrain.
Monsieur Pine.
La seule Torrey que je connais à jouer avec d'autres genres de bâtons.
OK. Ça, c'est du Alex. Sur ces bons mots d'Alex, on va aller à la pause.